évidente, c'est évidemment l'apologie de Socrate de Platon. Texte qui a été rédigé par Platon plusieurs années, on ne sait pas très bien quand, mais plusieurs années après le procès. C'est un texte étrange parce que c'est à nos yeux ce qui constitue encore la version officielle de l'événement. Et pour reconstituer le déroulement du procès, on est quand même bien souvent obligé de s'appuyer sur le texte de Platon. Pour autant, c'est évidemment pas le texte de Platon ne retranscrit pas le discours que Socrate a prononcé devant les juges. Donc c'est le discours que Socrate a peut-être vraisemblablement prononcé devant ses juges. Mais il y a des parties du texte platonicien qui sont de toute évidence fictionnelles.
Si vous me condamnez à mort, ce n'est pas à moi que vous ferez le plus de tort, mais à vous-même. Ni Mélétos ni Anitos ne sauraient me faire de tort à moi. Oh, sans doute est-il possible à un accusateur de me faire condamner à mort, à l'exil ou à la privation de mes droits civiques. Sans doute cet accusateur ou un autre s'imagine-t-il, je suppose, que ce sont là de terribles épreuves. Mais je considère au contraire qu'il est plus grave de faire ce qu'il a fait maintenant, quand il tente d'obtenir injustement la condamnation à mort d'un homme.
Socrate, on l'a compris, avait beaucoup d'ennemis, mais il avait aussi des disciples. Et après sa mort, il s'organise. Il faut gagner cette bataille, qui est la bataille de la mémoire. Or, cette bataille de la mémoire, elle est mal engagée pour les amis de Socrate.
L'apologie de Socrate appartient à ce qui, au IVe siècle, est devenu un véritable genre littéraire, les dialogues socratiques. On en connaît plusieurs centaines, ou plutôt on connaît plusieurs centaines de titres. Mais de cette forêt de textes, seuls ceux de Platon et de Xénophon ont été conservés intégralement. Leur but est de transmettre l'héritage intellectuel de Socrate et de répondre aux accusations formulées par ses adversaires.
Alors, quelles ont été ces accusations? C'est tout le problème. Il y a un texte, de ce point de vue-là, qui pour l'historien est extrêmement précieux, mais malheureusement qu'on ne connaît que par de très très brefs fragments. C'est un texte qui a été rédigé quelques années après le procès par un sophiste athénien, un rhéteur du nom de Polycrate, et qui justifiait la condamnation de Socrate en 399. Ce texte, il s'appelait donc « Accusation contre Socrate », et il expliquait en particulier que Socrate était un adversaire radical du régime démocratique athénien. Il qualifiait même Socrate de tyrannikos et de misodemos, c'est-à-dire d'adversaire du peuple athénien, et il dénonçait sa proximité avec ceux qui avaient voulu renverser le régime démocratique et qui avaient aspiré à la tyrannie.
C'est qu'on a oublié quelqu'un d'essentiel dans la reconstitution de ce procès. Et ce personnage se nomme Critias.
Critias, c'est un oligarque violent, un intellectuel, ami de Platon. Donc Xénophon disait que c'était le pire ennemi de la démocratie. Et effectivement, Socrate fait partie de ce milieu-là. C'est-à-dire le milieu de ces oligarques qui, d'une certaine manière, ont par rapport à la démocratie soit franchement des sentiments hostiles, comme Critias, soit comme, sans doute, Socrate, une distance ironique, ou peut-être même critique.
En 404, à la suite d'une défaite navale désastreuse contre Sparte, un coup d'État renverse le régime démocratique. Critias est l'un des meneurs de ce que les Athéniens appelleront plus tard le régime des 30 tyrans. En 403, les institutions démocratiques d'Athènes sont restaurées et une loi d'amnistie est votée. Aucun Athénien ne peut être poursuivi en raison de son soutien au gouvernement des 30. Aucun Athénien n'a le droit d'évoquer les malheurs passés. Or, c'est 4 ans seulement après cette guerre civile que se déroule le procès de Socrate. Voici ce qui pèse sur le procès, l'ombre menaçante d'un souvenir interdit. Les citoyens juges qui siègent sur ces bancs n'ont sans doute pas oublié que le tyran Critias était lui aussi un intellectuel, cousin de Platon et ancien élève de Socrate. Au terme des plaidoiries, on procède à un premier vote. Les 500 juges se prononcent par une trentaine de voix d'écart en faveur de la culpabilité de Socrate. Mais rien n'est encore joué, car il appartient ensuite au tribunal de choisir entre la peine que réclame l'accusateur et la proposition que doit lui opposer l'accusé lui-même.
Il suffisait de faire une contre-proposition d'une peine plus clémente pour, au fond, faire basculer le tribunal. Mais Socrate fait tout le contraire. Et donc, on va dire, il fait le malin. Il dit, moi, ce que je propose comme peine, c'est comme je suis le bienfaiteur de la cité, qu'on me nourrisse à vie dans le prytané. On appellerait ça aujourd'hui une stratégie de rupture. Ça veut dire qu'il accuse l'accusation. Ça veut dire que, d'une certaine manière, il dénie au tribunal la légitimité de le juger. Et ça, ça les énerve.
En détournant ainsi les règles de l'éloquence judiciaire, Socrate a mis les juges au pied du mur. Alors que le premier vote le condamnait à une majorité de seulement 30 voix, le second tranche plus nettement pour la mort, déplaçant 50 voix supplémentaires. Ce n'est donc pas au Prytané que la vie de Socrate s'achèvera, ce temple où brûle le feu sacré, symbole de la puissance éternelle de l'État, mais dans une prison. Une prison qui ne ressemblait sans doute pas beaucoup à celle que peindra David bien plus tard. La tradition l'a localisé dans cette grotte près de l'Agora. C'est là qu'il attendit la mort, avec cette détermination qui allait bientôt forcer l'admiration de la postérité et retourner l'accusation d'injustice contre la cité qu'il avait condamnée. Et pendant ce temps-là dans le monde, en Chine aussi, en ces années du début du 4e siècle avant notre ère, meurt un philosophe. Il s'agit de Cixi, le petit-fils de Confucius et l'un de ses principaux disciples, qui développe sa doctrine dans la Chine des royaumes combattants. Son principal ouvrage se nommait Changyong, invariable milieu. Comme plus tard Aristote, il y développait une éthique du juste milieu. Ailleurs dans le monde, on est à l'âge du fer. En Afrique, dans le Nigeria actuel, où l'on retrouve les vestiges de la civilisation Nok. Dans l'Europe celtique, où se développe la culture métallurgique de la tenne, et également en Scandinavie. Au Danemark aussi, un homme est condamné à mort. C'est l'homme de Tolund. Sans doute a-t-il été garrotté. On ne sait rien de lui, mais on connaît son visage, que la tourbe a conservé jusqu'à sa découverte en 1950. À quoi pensait-il au moment du trépas? On ne le saura jamais. Pas plus qu'on ne saura quelles pensées animaient Socrate pendant ses derniers instants, ni vers quel ciel il pointait le doigt. À partir du XVIIIe siècle, la figure d'un Socrate chrétien se complète d'un autre symbole, celui du combat contre l'arbitraire et l'intolérance. Une sorte de modèle de l'intellectuel dissident.
Dire de Socrate qu'il fut un intellectuel est évidemment un anachronisme, puisque nous savons que « intellectuel » est un mot qui apparaît avec l'affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle. Mais justement, l'affaire Dreyfus, elle devient une affaire à partir du moment où Zola accuse, écrit « j'accuse ». Donc, une affaire, c'est le moment où on accuse l'accusation. Et ce que Socrate, par sa mort même, produit, c'est une accusation de la démocratie. Non pas nécessairement au nom des ennemis de la démocratie, mais en fait une mise à l'épreuve de la démocratie. Et c'est pour cela que le procès de Socrate, il dure jusqu'à nous.
La crise de la démocratie qui alimente aujourd'hui le débat public et dont on observe les effets en Grèce, en Europe et ailleurs, est peut-être le prolongement d'une très ancienne dispute. Une dispute qui commence à Athènes, sur l'Agora, au 4e siècle avant notre ère. Une dispute qui fait que, si l'on s'interroge sur le procès de Socrate, c'est le procès de Socrate qui nous interroge en retour.
La démocratie comme régime, ce n'est pas simplement des institutions, c'est une tâche permanente. Une tâche à recommencer. Et donc, ce qu'il y a de plus démocratique dans la démocratie, c'est de se critiquer elle-même. Donc, Socrate, au fond, fonde la philosophie. Mais cette philosophie, elle est elle-même d'emblée en contentieux avec la démocratie. On cherche une scène originelle. On voudrait que philosophie et démocratie aillent main dans la main. Non, elles naissent en se disputant. Mais ça, c'est très grec. C'est-à-dire que nos fondements sont nos disputes. La démocratie, c'est la mésentente. Et d'une certaine manière, la scène originelle est un meurtre originel. Parce que, au fond, toutes nos institutions, ou plus exactement, notre pensée des institutions, naît de cette dispute fondamentale.